Chapitre 4. Le surlendemain matin, Colette regagnait Genève. Son visage était reposé. Elle avait maintenant plusieurs mois de tranquillité devant elle. En partant, elle avait embrassé son père. Il l'avait laissé faire sans un geste. Sur le moment, elle avait été un peu attristée par cette froideur, mais à présent, dans le train qui traversait une campagne ensoleillée, elle n'y songeait plus. Son séjour à Paris, quand il lui arrivait d'y penser, lui semblait avoir été une sorte de cauchemar. Durant tout le trajet, elle demeura dans le couloir du wagon et, lorsque la fatigue l'envahissait, elle s'asseyait sur un strapontin, si serré contre la paroi qu'elle n'avait pas besoin de se lever pour laisser passer les voyageurs. Que sa joie était profonde de s'éloigner de Paris, de se rapprocher de Genève. Comme les lumières clignotantes de l'avenue de Neuilly paraissaient déjà lointaines. Elle n'avait pas écrit à Jacques pour lui annoncer son retour, non qu'elle n'y eût pas pensé, mais parce qu'à la suite de l'heureuse conclusion de son voyage, elle éprouvait le besoin de se sentir seule pendant quelques heures, libre, sans obligation d'aucune sorte. La seule pensée que personne ne serait à la gare, que son père avait déjà repris ses habitudes sans se soucier d'elle et qu'elle avait pourtant dans son sac de quoi épargner à Jacques tout souci pendant plusieurs mois, l'emplissait d'un bien-être si profond qu'elle était presque reconnaissante à toute la souffrance de ces derniers jours, puisque c'était grâce à cette souffrance qu'elle était si heureuse à présent. À Genève, pour jouir du trajet de la gare à l'autre bout de la ville où se trouvait la pension, elle laissa sa valise à la consigne et partit à pied. Il faisait nuit, mais cette nuit n'avait rien de commun avec celle de Paris. C'était une nuit claire, glacée, où chaque lumière avait une identité. La ville n'avait pas étouffé la nature. Celle-ci apparaissait entre les maisons sous forme de jardin, dont l'espace n'avait pas été mesuré le long des quais, sous forme d'une eau bouillonnante. Enfin, Colette arriva devant la petite pension de Florissant. Celle-ci se trouvait dans un chemin plutôt que dans une rue, où toutes les villas, toutes les grilles, étaient couvertes de lierre. À la porte, presque cachée par le lierre, il y avait 6 boîtes à lettres. Elle reconnut la sienne, où, dans l'espace réservé à la carte de visite, Jacques avait écrit son nom au crayon. Elle poussa la grille, ce qui provoquait chaque fois, malgré le va-et-vient des pensionnaires, un enchevêtrement de fils de fer et de lierre, et se trouva dans le jardin. Dans un instant, elle allait retrouver Jacques et lui annoncer la bonne nouvelle. Son cœur battait. Elle s'arrêta un instant. Sa chambre était éclairée. À Paris, Colette se l'était imaginée éclairée de cette façon. Elle en éprouva une émotion profonde, comme si, revenant après des années, elle trouvait une vie qui n'avait pas changé sans elle. Enfin, elle entra dans la maison. La même veilleuse tremblait dans le hall où toutes les cannes, oubliées ou trouvées depuis des lustres, formaient une gerbe dans laquelle puisaient les pensionnaires. Elle monta l'escalier, prit un corridor, ouvrit une porte qui donnait sur quelques marches qu'elle gravit, tourna à droite, s'arrêta enfin devant sa chambre. Elle demeura un instant immobile, subitement frappée par tous les détours qu'elle avait faits. Il venait de lui montrer, mieux que son effroyable séjour chez son père, combien grande était sa dépendance. En gravissant un étage, en tournant à gauche, en tournant à droite, en regravissant 3 marches, elle avait eu brusquement le sentiment d'une sorte de fatalité, la guidant dans ce dédale, le sentiment que la chambre vers laquelle elle se dirigeait avec tant de sûreté était le seul lien au monde où elle fût chez elle. Elle frappa à la porte, ouvrit sans attendre qu'on l'y invitât. Un journal était épinglé autour de l'ampoule électrique placée au-dessus du lit. Jacques, couché tout habillé, son pardessus gris clair sur les jambes, lisait. Il se dressa, se débarrassa du pardessus en écartant les jambes, s'assit sur le lit, mit ses chaussures sans céder des mains. Colette l'avait embrassé lorsqu'il se leva. Il avait déjà compris que le voyage n'avait pas été inutile. C'était un homme de 23 à 26 ans, grand, maigre, portant de longs cheveux châtains rejetés en arrière, mais dont les mèches tombaient à chaque instant sur ses tempes. Il avait des yeux bruns, très brillants, un nez fin, un teint terreux, qu'assombrissait encore ce soir-là une barbe de 3 jours. Mais ce qui frappait le plus, C'était une sorte de cavité qu'il avait derrière l'oreille gauche. Il avait été trépané. « J'ai été t'attendre à la gare hier, » dit-il en rangeant son livre sur une étagère qui se trouvait au-dessus d'une table couverte de papier. Colette le regarda en souriant, mais il demeura grave. Il avait cet aspect des hommes qui sont restés enfermés plusieurs jours pendant qu'on s'est débattu pour eux. En effet, depuis le départ de Colette, et quoi qu'il lui eût promis de sortir, il n'avait pas quitté la chambre. Il n'était même pas descendu prendre ses repas dans la salle à manger. Il n'avait eu aucun contact avec le monde. Pendant 3 jours, il avait ruminé les mêmes pensées, les mêmes calculs. Et devant Colette, qui revenait de voyage, qui avait vu du monde, qui avait parlé, il se sentait obscur et misérable. « Je n'ai pas pu rentrer comme je te l'avais dit. »« Ah !» dit-il simplement, sans paraître le moins du monde contrarié par ce retard. « Je ne t'ai pas télégraphié parce que j'étais certaine que tu ne t'inquiéterais pas. » Il tourna la tête vers Colette. « J'aurais dû m'inquiéter, » demanda-t-il sans la moindre ironie. « Mais non, » répondit Colette sur le même ton. Lorsqu'elle eut ôté son manteau et son chapeau, fait un peu de toilette, elle s'assit dans l'unique fauteuil de la pièce, un fauteuil très bas, dont un pied était plus court que les 3 autres et que Jacques poussait devant la table quand il écrivait. « Tu n'as rien à me dire ?» demanda-t-elle. « Non. Je suis certaine que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Tu n'es pas sortie de cette chambre depuis l'autre jour. Je le devine. J'ai travaillé. » Colette regarda Jacques. Il marchait de long en large, les mains derrière le dos. Parfois, il s'arrêtait pour jeter un coup d'œil sur les papiers qui couvraient la table. L'avant-veille, la veille et dans l'après-midi de ce jour, il n'avait pas dû faire autre chose que de marcher ainsi. Il y avait à peine une demi-heure que Colette était rentrée, que, par étapes successives, en refermant d'abord le livre, en l'ouvrant 1 minute après, en s'asseyant enfin, il se replongea dans sa lecture. Elle n'y prit pas garde. Comme la plupart des femmes, une fois un but atteint, elle estimait qu'elle n'avait rien d'autre à désirer. Elle était heureuse d'avoir retrouvé Jacques tel qu'elle l'avait quitté. Après 4 ans d'une existence difficile aux côtés de cet homme, lui reprocher son accueil était la dernière chose à laquelle elle pensait. « Tu ne m'as pas raconté ton voyage, » dit Jacques lorsqu'il fut là d'aller et de venir. « Oh, il n'a pas été bien intéressant !» Colette fit cependant le récit de ce qui s'était passé. Mais son récit fut loin de la réalité. Elle prétendit que son père l'avait reçue avec joie, que c'était pour cette raison qu'elle était restée plus longtemps qu'elle n'avait voulu. Le docteur Salmon lui avait donné ce qu'elle lui avait demandé. Il l'avait fait de si bonne grâce qu'elle regrettait à présent de n'avoir pas demandé davantage. À aucun moment, elle ne fit allusion aux heures terribles qu'elle avait vécues. Pour comprendre la raison de ce silence, il faut nous reporter à 4 ans en arrière, et même plus. En 1917, Jacques Le Hardouin, qui n'avait alors que 18 ans, avait déjà tenté plusieurs fois de s'engager. De caractère assez particulier, au lieu de faire son droit comme son frère aîné Paul, déjà sous les drapeaux, il suivait des cours de peinture à l'école des Beaux-Arts. Ce fut ainsi qu'il connut Colette et qu'une grande amitié naquit entre les 2 jeunes gens. Pendant 1 an alors, il ne songea plus à s'engager. Mais au début 1917, alors que normalement il eût dû partir au printemps, il devança l'appel, ce qui lui donnait un droit dont il n'usa pas, celui de choisir son arme. Une correspondance clandestine s'établit alors entre eux, Colette ne voulant pas faire de peine à son père, dont la jalousie était féroce. Mais à l'automne 1917, elle ne reçut plus de nouvelles de Jacques. Cela dura 6 semaines. Enfin, elle apprit qu'il avait reçu un éclat d'obus à la tête, derrière l'oreille, et un autre au poumon, que pendant 7 jours, il était resté entre la vie et la mort. Il fut transporté au Val-de-Grâce. Elle le vit à ce moment régulièrement. Après avoir traîné plusieurs mois, il fut réformé en janvier 1918. Jusqu'en mars, il essaya de reprendre son activité de jeune homme, de retourner à l'école des Beaux-Arts. Mais sa santé demeurait mauvaise, ce qui incita sa famille à l'envoyer en Suisse. Le 7 mars, alors que tout était prêt, alors que Colette, de son côté, avait déclaré à son père, au cours d'une scène violente, mais sans donner la raison de son désir, qu'à son âge, elle avait 21 ans, elle était assez grande pour faire ce qui lui plaisait, en l'occurrence, un voyage d'un mois en Suisse. Le 7 mars, donc, alors que tout était prêt, que Colette devait voyager dans le même train que lui, il s'était brusquement refusé à partir. Que s'était-il passé dans son esprit? La joie de faire ce voyage avec Colette avait-elle été trop forte pour son cerveau ébranlé? En tout cas, personne ne le sut jamais. Ses parents insistèrent. Il se barricada alors dans sa chambre, refusant d'ouvrir, même pour prendre la nourriture que sa mère déposait sur une chaise devant sa porte. On songeait déjà à faire forcer la porte lorsque la fatalité voulut qu'un événement tragique se produisît à ce moment. Paul, le frère aîné de Jacques, était grièvement blessé. On l'avait alors transporté dans un hôpital de Troyes. Le major priait les parents de venir le plus tôt possible. Jacques ouvrit alors sa porte. Les volets étaient fermés. Pour qu'on ne doutât pas qu'il avait passé 48 heures dans l'obscurité, il avait jeté sa lampe sur le marbre de la cheminée. Son lit n'était pas défait. Malgré le froid, il avait fermé le calorifère. Il était dans un état lamentable. Il grelottait. Sa mère seule remarqua tous ces détails. « Mon pauvre garçon, dit-elle, tu veux donc que nous te perdions aussi ?» Monsieur Lézardouin s'efforçait de garder son sang-froid. Le soir même, il partait avec sa femme pour Troyes. Une autre scène avait précédé ce départ. Jacques avait voulu absolument les accompagner, mais les parents n'avaient pas voulu, craignant que l'état de leur fille ne s'aggravât. Il était dans un état de surexcitation extraordinaire. Dans l'état de faiblesse où il était, il eût été dangereux de lui imposer encore la fatigue du voyage, les émotions qu'il attendait à Troyes. Finalement, on parvint à lui faire entendre raison. Il n'en pouvait plus. Ses parents s'apprêtaient à partir lorsqu'il s'endormit. Un frère de M. Lézardouin, à qui on avait téléphoné, arriva. Avec l'aide de la femme de chambre et de la cuisinière, il porta le jeune homme dans la chambre de ses parents, le coucha, recommanda qu'on veillât sur lui, puis s'en alla. Au milieu de la nuit, Jacques se réveilla. Il crut qu'il était enfermé dans sa chambre. Il poussa un cri. Puis il se souvint de tout. Alors il fut la proie d'une crise violente de désespoir. Jusqu'au matin, il pleura. Lorsque le jour vint enfin, sa décision était prise. Il s'habilla, se rendit dans la chambre de son frère. Il savait que celui-ci y avait laissé, au cours de sa dernière permission, un revolver. Mais il eut beau fouiller partout, il ne le trouva pas. Il revint dans la chambre de ses parents, il ne le trouva pas davantage. Ce ne fut qu'au bout d'une heure de recherche qu'il parvint à le découvrir, caché dans la bibliothèque de son père. Sa décision était prise. Il allait téléphoner à Colette, lui dire qu'il voulait la voir tout de suite. Il lui demanderait alors de le présenter à son père, de prévenir celui-ci qu'il voulait un certificat de complaisance, attestant qu'il était en parfaite santé, car, dans sa folie, il accordait à un tel papier une importance qu'il n'avait pas. Son frère avait été grièvement blessé. Seul lui, Jacques, pouvait le venger. Une fois en possession de ce papier, il irait au bureau de la place, s'engagerait. Et si on ne l'acceptait pas, il se tuerait. Mais pour rien au monde, Colette n'eût parlé de Jacques à son père, surtout après la scène qu'elle venait d'avoir. Chaque fois qu'elle lui avait fait connaître un jeune homme, il avait tout de suite trouvé 1000 défauts à ce dernier. Elle savait trop combien il aurait la partie belle avec Jacques pour s'exposer à entendre critiquer un homme qu'elle aimait. Elle essaya de faire comprendre à Jacques qu'il agissait comme s'il ne l'aimait pas, que cette démarche qu'il lui demandait serait inutile, car même s'il était pris, on s'apercevrait bien vite qu'il n'était pas en bonne santé. Il parut tellement désespéré par cette réponse qu'elle finit par lui conseiller d'aller voir un certain commandant gillois, dont elle avait entendu le nom prononcé par son père, qui était justement au Val-de-Grâce. Jacques lui téléphona immédiatement. Il n'était pas à l'hôpital et ne devait pas y reparaître avant la fin de la semaine. Comme il insistait, on lui donna l'adresse personnelle du major. Il alla alors voir Colette. Pendant 2 heures, elle essaya de lui faire comprendre que ce qu'il faisait était insensé, que, puisqu'ils s'aimaient tous les deux, ils n'avaient qu'à se marier maintenant qu'il était libre. Mais Jacques ne pouvait admettre que son frère ne fût pas vengé. Elle était si convaincue qu'il n'était pas venu à cause du malheur qui le frappait qu'elle ne lui reprocha même pas de l'avoir laissé aller à la gare inutilement. Pourtant, sur la fin, il parut faiblir et Colette rentra rassurée chez elle. Le lendemain matin, Jacques se rendit chez le docteur Gilloin. C'était un homme assez singulier. Il vivait seul avec des chats dans un petit pavillon de Montrouge. Jeune, il avait eu la plus belle carrière devant lui, mais comme M. Salmand, il s'était mal marié. Au début de la guerre, sa femme était morte. Il avait alors renoncé à toute ambition. Jacques s'était levé de bonne heure, tant il craignait que le docteur Gilloin ne fût sorti avant qu'il arrivât. Il n'avait presque pas dormi de la nuit. La première fois qu'il s'était assoupi, après avoir éteint, il s'était réveillé en sursaut, le corps couvert de sueur, avec la sensation effroyable qu'il était enfermé dans un caveau, sans porte et sans fenêtre. Il se dressa alors en poussant des cris. Puis il ne put plus crier. Il étouffait. Alors il se débattit, renversa un verre, une montre. Le bruit que firent ces objets déchira les ténèbres. Il aperçut le rectangle plus clair de la fenêtre, des reflets sur les meubles. Il reconnut sa chambre. Il fit de la lumière. Il attendit alors, assis sur son lit, que les battements de son cœur s'atténuassent. Quand il se rendormit, 1 heure plus tard, sans avoir fait l'obscurité cette fois, il se réveilla peu après avec la sensation non moins effroyable qu'il se trouvait dans un lieu où la nuit n'existait plus. C'était à cause de la lumière que maintenant il étouffait, une lumière éblouissante et froide. Il s'éveilla, éteignit, alluma de nouveau, puis se leva. Pendant longtemps, il marcha de long en large dans sa chambre. Il pensait à son pauvre frère, à Colette, à ses parents. Le matin arriva enfin. Jacques avait les mains brûlantes. Son corps était moite. Il se leva, s'habilla à la hâte, prit un taxi. Peu après, il arrivait à Montrouge. Le docteur Gilloin était chez lui. Il reçut Jacques dans son cabinet, une pièce pauvrement meublée qui donnait sur le toit grillagé d'un poulailler. « La fille d'un de mes confrères m'a téléphoné à votre sujet, mais je dois dire que je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Vous voulez une recommandation pour le médecin de la place. Mais c'est une chose impossible, cher monsieur. Je n'ai pas le droit de le faire. » En admettant même que je passe outre, mon confrère se demanderait si je n'ai pas perdu la tête. Tous les jeunes gens de votre âge sont au front. Je ne connais personne autour de moi qui ferait quoi que ce fût pour vous épargner le sort de tous les Français. » Jacques n'eut aucune difficulté à faire comprendre à son interlocuteur qu'il ne s'agissait pas du tout de ce qu'il pensait, mais au contraire du désir de servir. « Je suis réformé et je veux reprendre du service pour venger mon frère. » Le docteur Gilloin regarda Jacques avec étonnement. Il se fût agi d'un autre, il eût certainement eu le sentiment de l'avoir blessé en le croyant capable de vouloir s'embusquer, mais en ce qui concernait Jacques, le médecin n'en eut pas conscience, tellement l'homme qui était devant lui était exalté. « Cela m'est impossible, » dit-il sur le même ton, comme si ce que lui demandait à présent Jacques était absolument semblable à ce qu'il avait d'abord supposé. « Est-ce que vous m'avez bien compris ?» demanda Jacques, qui, comme d'autres ont conscience de leur richesse, avait conscience des sentiments élevés qu'il pouvait éprouver. « très bien, monsieur. » Jacques parla encore un peu conventionnellement, comme quand on ne connaît pas son interlocuteur, du désir qu'il avait de venger son frère, de ses blessures, selon lui, insignifiantes. Si on l'avait réformé, c'était parce que son père avait une grosse influence. On avait cru lui faire plaisir. Tous ces arguments ne firent aucune impression sur le docteur Gilloin. « C'est inutile d'insister, monsieur. Je ne peux pas, de quelque manière que ce soit, me permettre d'influer, en admettant que j'en ai la possibilité, ce qui n'est même pas le cas, sur la liberté d'interprétation d'un de mes collègues. » Ces paroles furent dites sèchement par un homme qui voyait dans la visite de Jacques plus qu'une soif de sacrifice digne d'admiration, un caprice de fils de famille habitué à considérer qu'on pouvait toujours tourner la loi. « Je voudrais, dit-il, que vous me fassiez une lettre d'introduction pour le médecin de la place. » Le docteur Gilloin regarda le visiteur avec étonnement. « Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit ? C'est inutile d'insister. » Jacques garda le silence. « Allons, rentrez chez vous, dit le médecin en se levant, et reposez-vous. Vous en avez besoin. » Jacques demeura immobile. Le docteur Gilloin s'approcha de lui. Jacques, durant tout l'entretien, s'était arrangé pour faire face à son interlocuteur, de manière que celui-ci ne vit pas le trou qu'il avait derrière l'oreille. Pour continuer à faire face au médecin qui s'avançait, il se tourna, mais avec une telle brusquerie que le médecin eut un mouvement. Ce fut à ce moment que, dans un geste d'une rapidité qui n'avait presque rien d'humain, Jacques tira son revolver de sa poche et fit feu presque à bout portant sur le docteur Gilloin. Ce fut avec beaucoup de sang-froid que Jacques sortit du pavillon, arrêta un taxi, se fit conduire rue Vaneau. Il était soulagé. Il ne songeait plus ni à son frère ni à personne. Cependant que le taxi roulait vers Paris, à travers un quartier qu'il n'avait jamais vu, il se sentit subitement rasséréné. Il n'éprouvait plus aucune douleur de la perte de son frère, ni ce sentiment d'amoindrissement que lui causaient ses blessures. Mais quand il approcha de la rue Vaneau et qu'il reconnut son quartier, il se mit à trembler. Seulement à ce moment, il commença à se rendre compte de ce qu'il venait de faire. C'était confus. En rentrant, il trouva un télégramme de son père lui annonçant que Paul était mort. Il n'en ressentit aucune émotion. Mais dans l'après-midi, la lumière se fit peu à peu dans son esprit. Il la voyait grandir avec terreur. Avec la lucidité qui lui venait vers la fin de l'après-midi, il comprit enfin qu'il était un criminel. Il n'avait pas déjeuné. Il était resté assis jusqu'à cet instant dans un fauteuil du salon. Il se leva, eut un vertige de quelques secondes, se rendit dans le cabinet de travail de son père. Là, il écrivit une longue lettre à ses parents, dans laquelle il raconta tout ce qui s'était passé en leur absence, mais sans le moindre remords, comme s'il s'agissait d'une chose inéluctable. Il la termina en disant qu'il allait disparaître et qu'on n'entendrait plus jamais parler de lui. Très calmement, il téléphona alors à la gare de Lyon pour savoir à quelle heure il y avait un train pour Lausanne. Le lendemain matin, à 7 heures, il arrivait à Lausanne. Dans la soirée de ce même jour, il écrivit à Colette cette lettre étrange dont chaque mot était resté gravé dans sa mémoire. C'était un mardi. Le samedi de la même semaine, elle le rejoignait.